À 6h44 en temps universel, la revue de presse africaine. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour Clotilde.
Et à la une en RDC, le retour annoncé de Joseph Kabila.
Oui, le retour annoncé de l'ancien président de la République démocratique du Congo, largement commenté dans la presse congolaise, Joseph Kabila, qui compte rentrer dans le pays par sa partie orientale. Il ne précise pas s'il arrivera par le Katanga ou par les zones sous contrôle du M23. C'est ce flou qui fait l'objet de nombreux commentaires. Pour le Forum des As, que Joseph Kabila, je le cite, rentre au pays dans un contexte où son successeur bat le rappel des troupes pour davantage sceller la cohésion interne et faire face à l'ennemi, personne ne s'en offusque, seulement voilà, écrit le journal en ligne, Joseph Kabila ne précise pas clairement sa porte d'entrée. La partie orientale de la RDC est vaste, et même très vaste, toutefois reconnaît le Forum des As. Dans la situation actuelle du pays, Joseph Kabila est une variable pour le retour d'une paix durable. Fin de citation.
Un tout autre son de cloche pour Info 27 qui reprend à son compte les accusations du président Félix Tshisekedi.
Joseph Kabila serait en fait un complice du M23 et préparerait une insurrection. Info 27 estime le retour annoncé de l'ancien président précisément par la partie orientale du pays ne doit rien au hasard, dit le journal. Cette région, aujourd'hui sous occupation rwandaise, constitue l'épicentre des tensions et des ambitions régionales. Les masques tombent, accuse Info 27, et les alliances se révèlent au grand jour. Pour le journal en ligne, Joseph Kabila est le véritable propriétaire de l'AFC M23 qui s'apprête à reprendre symboliquement possession de son fief à Goma. Fin de citation. Joseph Kabila avait formellement démenti en mars être complice du M23 lors d'une conférence de presse organisée en Afrique du Sud.
Oh, dans la presse également, le Maroc, victime de l'une des pires fuites de données de son histoire, des milliers de documents de la Sécurité sociale et du ministère de l'Emploi ont été publiés sur Internet.
Les hackers se revendiquent algériens, mais prudence, rien ne le prouve pour le moment. La presse marocaine, elle, semble persuadée que c'est un coup d'Alger. Défilé d'experts en cybersécurité dans tous les journaux du pays ce matin pour tenter d'expliquer comment cela a pu arriver. Les responsables marocains restent pour le moment muets sur l'affaire. Le journal Yabi Ladi déplore la rivalité entre Maroc et Algérie dépasse désormais les querelles sur les réseaux sociaux autour du patrimoine culturel, culinaire et vestimentaire pour s'étendre au domaine des cyberattaques. Les tensions entre les deux nations se sont propagées dans le cyberespace. Fin de citation. Le journal en ligne L'Opinion appelle, lui, à des investissements conséquents de cybersécurité dans le royaume, insuffisants selon lui.
Et puis le Sahel et les faux experts dessous d'une campagne de propagande russe, c'est le titre d'une enquête de Jeune Afrique.
Le mensuel met en lumière un réseau de médias utilisés au Sahel pour diffuser un discours favorable à la Russie et hostile à la France, encore largement répandu aujourd'hui. Des médias qui publient des articles s'appuyant sur des experts ou des journalistes spécialisés qui sont en réalité fictifs. Ces gens n'existent tout simplement pas. Jeune Afrique révèle, ce sont des créations d'un réseau d'influence. Le plus prolifique d'entre eux, Grégoire Cyril Dongobada, est présenté comme un observateur militaire centrafricain, chercheur des études politiques. Seulement voilà, écrit Jeune Afrique, il n'existe pas. Ses traces sur Internet ne remontent qu'à 2021, alors qu'il est cité dans des médias pro-russes. Des profils comme celui-là, il en existe d'autres. L'enquête est donc à lire sur le site Internet de Jeune Afrique.
La revue de presse Afrique de Théo Renaudon.
RFI, toute l'actualité.
Clotilde Dumais.
6h48 en temps universel. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025 dans l'actualité aujourd'hui. Les marchés européens prêts à ouvrir en trombe après plusieurs jours dans le rouge. La bourse de Tokyo, elle clôture d'ailleurs sur un bond d'un peu plus de 9%. Réaction au recul de Donald Trump qui décide finalement de suspendre pendant 3 mois les surtaxes prévues pour des dizaines de pays. Seule exception, la Chine qui se voit imposer des droits de douane supplémentaires de 125% et qui réplique avec l'entrée en vigueur ce matin de taxes de 84% sur les produits américains. La France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin prochain. annoncé par le président Emmanuel Macron. Ce serait à l'occasion d'une conférence co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite aux Nations Unies à New York. Le bilan s'alourdit à 184 morts en République Dominicaine. Bilan après l'effondrement dans la nuit de lundi à mardi du toit d'une discothèque à Saint-Domingue. Il s'agit de la pire catastrophe du siècle pour le pays. Arrêtons de jouer aux sapeurs-pompiers, il faut réinventer la ville de Kinshasa. Voilà ce que déclare l'urbaniste congolais Gulin Amani. Après les inondations du week-end dernier, qui d'après un dernier bilan officiel ont causé la mort de 43 personnes dans la capitale congolaise. En ligne depuis Kinshasa, le professeur Gulin Amani, enseignant à l'Institut d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Gulin Amani, bonjour.
Bonjour.
En 2022, des pluies torrentielles avaient déjà provoqué 120 morts à la suite d'inondations et de glissements de terrain. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans?
Et le problème, il faut le dire, avec la gouvernance urbaine pour cette ville de Kinshasa, à chaque fois, on essaie de jouer plutôt sapeurs-pompiers. Et donc, lorsqu'il y a une catastrophe qui nous coûte des vies humaines, on essaie de se rappeler qu'on ne peut pas se permettre de construire puis de réfléchir par la suite. Alors, ce fait de se rappeler des conséquences une fois que la nature vient nous frapper est un peu, je dirais, irresponsable. Parce que justement, tout ce qu'on essaie de faire, c'est des opérations de saupoudrage. On essaie de sauver un peu la face. Mais ces mesures qui sont prises, elles sont très souvent dérisoires et ne permettent pas de répondre à cette problématique de façon durable.
Alors vous dites que l'un des principaux problèmes, c'est que les voies d'évacuation des eaux sont bouchées par des constructions anarchiques, mais dans une ville de 17 millions d'habitants, il faut bien que les gens se logent quelque part. Comment les empêcher de construire là où il reste un peu de place?
Oui, justement, on ne peut pas blâmer justement les habitants parce que il faut reconnaître qu'il faut leur offrir des options qui soient sûres et abordables, ce qui n'est pas le cas dans le contexte de Kinshasa. Et l'absence de planification, l'absence de la maîtrise et du contrôle du développement urbain ne peut que conduire à ce que finalement les habitants, puisqu'ils doivent se loger face à ce besoin qui est crucial et primordial pour tout urbain, ne peut que nous conduire à ces évidences-là. Et donc, il faut le reconnaître, les parcelles pour avoir un toit à Kinshasa, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. Et le pouvoir public ne s'occupe pas suffisamment de cette problématique. Et c'est comme ça que les habitants se débrouillent à leur manière pour répondre à leurs besoins élémentaires en tant qu'urbains.
Quand il est allé voir les sinistrés au stade Tata Raphaël lundi dernier, le président Tshisekedi a été chahuté, puis a promis la tenue prochaine d'une réunion de crise qu'il présidera. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion?
Il faut dire, c'est déjà une bonne approche, parce que lorsqu'on est malade, il faut au départ reconnaître sa maladie. Ensuite, il faut mener un vrai diagnostic. Or, pour mener un vrai diagnostic, on ne s'improvise pas. C'est une question plus technique que politique. Et il faudrait que les décideurs aient cela en tête. Il faut mettre en avant les techniciens, et donc les urbanistes, les architectes, les ingénieurs et les tous bords, pour trouver d'abord les causes profondes à cette répétition de catastrophes. Il faudrait pas que Kinshasa soit vraiment la ville la plus vulnérable, où à chaque pluie, on doit décrier des morts. Et après avoir analysé les vraies causes profondes, trouver des réponses appropriées, et pas dans un court terme. Comment rendre Kinshasa une ville résiliente qui s'adapte à la nature et qui anticipe en fait? Nous pouvons réinventer la ville de Kinshasa, mais pour ça, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut une vraie coordination en termes de management et trouver les acteurs qu'il faut pour le faire. Mais tout ceci ne se fera pas non plus qu'avec des techniciens. Il faut s'assurer de la participation citoyenne parce que justement, il y a des questions qui visent une certaine sensibilisation, une éducation de la société à la gestion des déchets pour mieux aménager la ville.
Vous parlez de participation citoyenne, c'est-à-dire convaincre les gens de ne pas jeter leurs poubelles partout, etc. Mais pour les gens qui habitent dans ces constructions anarchiques, qui sont dans le lit des rivières, comment leur expliquer qu'on va démolir leur maison si on n'arrive pas à les reloger?
Justement, sans alternative, on ne pourra pas trouver des solutions pérennes. Je suis aussi, je reste convaincu qu'une opération à l'haussmannienne de nos jours, c'est pas non plus une évidence.
la destruction de certains quartiers de Paris il y a 200 ans.
Voilà. Mais il y a des quartiers qui doivent être interdits à la construction, puisqu'ils présentent un risque élevé, des lits des rivières, des ravins qui sont très actifs ou des bas-fonds. Et donc, c'est des questions de sécurité publique. Et face à la vie, on doit essayer de mettre les prix qu'il faut. Mais cela suppose, comme je l'ai dit, vraiment un accompagnement social, des relocalisations dans la dignité et des alternatives qui soient viables pour tous les habitants. Et donc, il nous faut vraiment du courage. Nous sommes dans des démocraties aujourd'hui où les citoyens ont leur place et on ne peut rien faire sans eux. Et donc, toutes ces mesures doivent être prises en proposant des vraies alternatives.
Professeur Gulin Amani, je vous remercie.
L'urbaniste congolais Gulin Amani, interrogé par Christophe Boisbouvier. Il est 7h54 à Kinshasa. Dans quelques minutes, un nouveau journal. Mais d'abord, on retrouve Maman. Et vous nous dites ce matin, Maman, que la capacité de rebond des Gondouanais face aux difficultés de la vie quotidienne est fascinante.
Oui, quand tu crois que les Gondouanais ont la tête sous l'eau, ben t'es tout surpris de les voir émerger et faire du surf sur les vagues de leurs difficultés. Quand tu les imagines carbonisés et éteints par toutes ces décennies sous la poigne de fer de notre leader bien-aimé, son Excellence Président Fondateur, t'es tout étonné de les rencontrer dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, allumant un barbecue avec les promesses électorales non tenues de leur leader politique et surtout avec toutes ces dépêches de presse emplies de mauvaises nouvelles venues de la scène internationale. Un scandale, un drame, une guerre, une catastrophe a frappé le pays. Eh ben, ne t'attends pas à trouver les Gondouanais prostrés dans le fatalisme. Tu as juste à tendre les oreilles et tu entendras une expression venir enrichir le vocabulaire de la rue, une chanson sortir pour faire danser sur les cendres de ces accidents de la vie en très très démocratique république. Au Gondwana, Lavoisier est entré dans la culture populaire. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tous les problèmes se transforment en victoire. Regarde les noms de certains quartiers de cette belle ville qui, sans cesse, s'étend aux quatre coins cardinaux, accueillant tous les jours de nouveaux habitants, riches investisseurs à la fortune, pas toujours halal, pauvres paysans chassés de leur village par le réchauffement climatique ou par l'obscurantisme djihadiste, immeubles dubaïotes par-ci, casampayotes ou un objet de récupération par-là. Tous les jours, de nouveaux quartiers voient le jour. Quartiers qui sont tout de suite baptisés par la rue gondouanaise, le plus souvent comme un marqueur de l'histoire, comme un témoignage pour dire à président fondateur et son entourage « On vous regarde, hein !» En d'autres termes, la plupart des noms des quartiers de Gondwana, située notre belle capitale, te donnent une indication de l'origine de l'argent qui a servi à construire toutes ces maisons de ce quartier. Par exemple, dernièrement, on a vu surgir un nouveau quartier huppé avec des villas cossues et des immeubles incroyables ayant poussé aussi vite qu'un chrono de Max Verstappen, un quartier à qui les Gondwanais ont donné le nom de Villa Taxe Douanière. Tu as vu, c'est rapide, hein, tu as compris. Pas besoin de te faire de longs discours, la capacité d'adaptation des Gondwanais est extraordinaire. Ils donnent des noms au quartier, comme lorsqu'un procureur prend des notes pour monter son dossier d'accusation. C'est ainsi que si tu t'assois et fais la liste de tous les scandales financiers qui ont émaillé l'histoire de la très très démocratique république, ben tu retrouveras ces scandales dans les noms des quartiers de Gondwana, situé notre belle capitale. Hein. Allez, viens, je t'amène à la découverte de ces quartiers qui te raconteront l'histoire judiciaro-financière de ton beau pays et ouvre les yeux et les oreilles. Lotissement conférence pour l'eau, quartier lutte contre le terrorisme, villa boom pétrolier, résidence campagne vaccination polio, immeuble école pour tous, parcelle fonds Covid, etc. etc. Allez, n'oubliez pas de mettre vos GPS à jour hein, pour ne pas vous perdre dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale. À lundi.
À lundi, Maman, il est presque 7h, TU sur RFI. Restez avec nous dans un instant, l'actualité internationale.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème « L'entreprise, moteur d'une croissance durable ». Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique événements, le 29 avril prochain à Paris, en partenariat avec RFI.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Face à la guerre en Ukraine et aux menaces de la Russie, l'Europe veut se réarmer. Comment mobiliser les industries de défense ? Comment financer ces dépenses imprévues en pleine guerre commerciale et alors que les tensions montent avec l'allié américain? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Des éleveurs pasteurs de la Mongolie étaient dans la région de Louga pour rencontrer leur père Peul du Sénégal. Un échange sud-sud dans l'élevage pastoral. Font-ils face aux mêmes défis? Quel impact ce type de coopération peut-il avoir sur la vie des communautés?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.
Bom dia, ici c'est Gabriela Lima, artiste brésilienne, et j'ai le bonheur de vous annoncer que mon nouvel album, Sabor Solaire, que l'on pourrait traduire par Saveur Solaire, est disponible sur toutes les plateformes. Il sort sous mon label Biela, en partenariat avec RFI Talent.
RFI, la sélection du mois.
Excuse me, Mr. Officer.
Roseau et Ghetto Boy.
When I have time, so no don't look like say we done the crazy. Say all of my people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil.
Yuka et Naza.
Baby, viens monter dans le train, viens côté mon cho-cho-cho. Cho-cho-cho, cho-cho-cho.